une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir, animée et réalisée par
Corinne Vivier,
Lucie Amiot
et Jean Bourriou, votre serviteur. Bonjour à tous. D'abord, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, nous commencerons à faire un point sur la rentrée avec l'équipe de la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir. Puis, à la fin de l'émission, nous retrouverons un reportage réalisé au mois de juin au Collège Sainte-Marie en plein tournage d'un clip sur le thème du harcèlement.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année scolaire et dans ce studio autour de cette table, une partie de l'équipe de la direction diocésaine. Alors, Madame Bénédicte Lorrain, que nous aurons la joie de présenter tout à l'heure, Monsieur Philippe Castille, directeur diocésain, Lucie Amiot, adjointe pour la pastorale et Jean et Corinne,
vos animateurs préférés.
Bonjour.
Donc, bonjour.
Pour commencer, bonjour à tous. Nous retrouvons Monsieur Castille, donc directeur diocésain, et vous allez nous présenter cette nouvelle entrée.
Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors, une excellente rentrée, une très bonne rentrée pour les établissements de l'enseignement catholique de notre diocèse, puisque au niveau des effectifs, nous avons maintenu nos effectifs. Il y a une baisse au niveau des écoles du premier degré, mais qui est compensée par une hausse au niveau du collège et du lycée. Donc globalement,
Et du supérieur.
Et du supérieur. Et donc nous suivons l'évolution démographique.
Parfait. De nouvelles équipes à la tête de nombreux établissements, avec l'arrivée de chefs d'établissement.
Oui, pour un certain nombre d'établissements, un nouveau ou une nouvelle chef d'établissement, puisque un certain nombre de nos collègues sont partis à leur retraite ou sont allés vers d'autres diocèses, et donc il a fallu nommer des nouveaux chefs d'établissement, et nous aurons l'occasion de leur remettre leur lettre de mission prochainement lors de la messe de rentrée de l'enseignement catholique, le 22 septembre.
Très bien. Donc, c'est une messe qui est ouverte
C'est une messe qui est, comme toutes les messes, ouverte à tous.
Très bien.
Alors, une nouvelle année dit souvent des nouveaux axes de travail ou des nouveaux
chantiers.
Alors, peut-on présenter ces nouveaux chantiers, Monsieur Castille ?
Alors, de nombreux chantiers, des chantiers au niveau des établissements, des chantiers au niveau diocésain. Nous souhaitons travailler cette année sur le sens de l'engagement avec les personnes de nos communautés éducatives, qu'elles soient des personnels ou les bénévoles ou les élèves ou les familles, pouvoir réfléchir sur l'engagement et commencer à écrire ou à penser nos futurs engagements pour l'école catholique de notre diocèse pour les années à venir. Voilà, une réécriture de nos orientations sous forme d'engagement partagé.
Et comment va se préparer ce chantier ? Comment se passe ?
Eh bien, l'équipe de la direction diocésaine s'est entourée d'un petit groupe de pilotage. Voilà. Et puis surtout, nous comptons sur les communautés éducatives parce que nous voulons que cette écriture soit amplement participative, voilà, que dans chaque établissement, on puisse faire remonter les idées, les convictions, voilà, les engagements que chacun, à sa place dans l'établissement, souhaite prendre pour préparer le monde de demain, ce qu'on appelait le monde d'après. Voilà, je ne sais pas si c'est le monde d'après quoi, mais en tout cas le monde de demain, et que nous puissions être... que l'enseignement catholique puisse être acteur de ce monde de demain.
Est-ce que c'est une charte de l'enseignement catholique en Eure-et-Loir ou...
Oui, c'est en effet ce qu'on appelle un texte de référence pour l'ensemble des établissements des écoles jusqu'au supérieur, de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole. Voilà, c'est un texte de référence, même si chaque établissement garde son projet d'établissement. Nous espérons qu'ils s'y référeront. Voilà, un texte de référence donc pour notre enseignement catholique diocésain.
Vous venez de nous parler du chantier, les engagements de l'enseignement catholique, mais est-ce qu'il y a d'autres perspectives de chantiers autres ?
Bien sûr, il y a d'autres chantiers. Nous avons des chantiers de réflexion éducative, mais nous avons aussi des chantiers au sens propre hein, du mot, puisque nous avons construit une nouvelle école à Saint-Joseph, à Ono, voilà, où l'institution a été réunifiée, puisque sur le même site, il y aura l'école maternelle, l'école élémentaire et le collège à Ono. Et puis, il y a la nouvelle école Guéry qui se construit en vis-à-vis du collège Sainte-Marie à Chartres et qui monte très vite et qui sera vraisemblablement opérationnelle à la rentrée prochaine. Voilà, donc une nouvelle école cette année et une nouvelle école l'année prochaine et peut-être un peu plus.
Alors, merci déjà pour cette petite présentation du diocèse d'Eure-et-Loire au niveau de l'enseignement catholique. Avant de passer à autre chose, une petite pause. Corinne, peux-tu nous présenter cette petite pause ?
Eh bien, tout à fait. Nous avons reçu de la part de Madame Hélène Labbé, qui est enseignante à Notre-Dame à la Loupe, avec sa classe de CE2, CM1, qui ont fait la rentrée en chantant et qui ont donc composé une chanson sur l'air de « Aux Champs-Élysées ». Et donc, cette chanson va s'appeler « Oh, dans notre école ».
Écoutez bien les paroles.
Au début de cette émission, nous avons présenté Bénédicte Laurin qui vient enrichir l'équipe de la direction diocésaine. Monsieur Castille, est-ce que vous pouvez redire quelles sont les personnes qui sont acteurs de cette direction diocésaine et leurs fonctions ?
Alors l'équipe de la direction diocésaine, je laisserai Bénédicte se présenter, voilà son rôle d'adjointe. Nous avons l'adjointe pour la pastorale, Lucie Amiot, qui est souvent à ce micro, voilà, que vous connaissez bien. Nous avons deux chargés de mission aussi qui nous accompagnent sur des dossiers spécifiques. Donc Corinne que vous connaissez également puisqu'elle anime cette émission et qui a entre autres charge la mission d'animer ou de coordonner ou de rendre enthousiaste en tout cas l'éducation affective, relationnelle et sexuelle et puis l'éducation à la santé. Voilà une mission dans laquelle elle s'investit beaucoup au service des établissements. Une autre chargée de mission, c'est Béatrice Quin. Béatrice qui était jusqu'à l'année dernière l'adjointe à la direction diocésaine et qui est maintenant chef d'établissement à Jean-Paul II, mais continue d'être chargée de mission pour l'éducation inclusive, à savoir l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap. Dans notre équipe, il y a également Madame Valérie Bouilly, qui est psychologue scolaire et puis qui intervient auprès des jeunes et des équipes. Et puis nous avons deux comptables, Madame Frédéric Faucheux et Madame Véronique Barrois, qui sont comptables avec une attention toute particulière pour nos petites écoles. Et enfin, je garde pour la fin notre tour de contrôle, notre secrétaire de direction, celle qui vous répond quand vous appelez à la direction diocésaine. Sonia Le Hérissé, voilà, qui est pour nous une personne ressource et indispensable. Eh bien, je laisse la
parole.
Bien
belle équipe.
Une bien belle équipe avec qui nous travaillons en confiance et avec beaucoup de fraternité.
Et donc, nous sommes heureux d'accueillir Bénédicte, hein, Bénédicte Lorrain. Nous allons vous laisser vous présenter.
Merci Corinne, bonjour à tous. Bien, Bénédicte Lorrain, effectivement. J'ai été appelée donc par Monsieur Castille pour assurer les fonctions d'adjointe de la direction diocésaine. C'est une fonction nouvelle pour moi, puisque j'ai auparavant été 15 ans chef d'établissement à l'école Saint-Sauveur de Bonneval. Et puis, je crois qu'une nouvelle fonction, mais avant tout une nouvelle mission, puisque je me sens comme appelée, nous allons dire, à plus, par quelque chose de plus grand, sincèrement, que moi. Voilà, la fonction, je dirais, accompagner, servir les chefs d'établissement, participer aussi à la promotion de l'enseignement catholique, œuvrer aussi au niveau régional, voilà, concourir au rayonnement, et puis tout en gardant cet esprit vraiment de service auprès des autres.
Est-ce que vous avez des axes de travail spécifiques au sein de cette direction diocésaine ?
Alors les axes, je dirais, c'est d'être à la fois innovant et puis exaltant, moi je dirais, et puis ensemble. Ça me paraît aussi une notion qui était vraiment fondamentale, en tout cas quand on a échangé pour les missions à venir, c'était le fait que vraiment ensemble, on peut aller beaucoup plus loin et on peut avoir une perspective d'avenir qui soit joyeuse pour les établissements catholiques.
Alors, avant de parler de plusieurs rendez-vous qui vont avoir lieu cette année, on peut déjà peut-être pour nos auditeurs redéfinir quel est le rôle d'une direction diocésaine, Monsieur alors, Castille.
Alors les rôles d'une direction diocésaine et on va parler d'abord du directeur diocésain, hein, puisque dans le statut de l'enseignement catholique, le directeur diocésain a trois aspects. Il est directeur des services diocésains, voilà, donc directeur de la direction diocésaine, voilà, et de ses services. Il est autorité de tutelle pour les établissements qui sont sous tutelle diocésaine, c'est-à-dire que au nom de l'évêque et assisté par le conseil de tutelle diocésain, il nomme les chefs d'établissement et les accompagne. Il est aussi membre de droit des organismes de gestion de ces établissements. Et puis, il est la troisième fonction, c'est d'être délégué épiscopal pour l'enseignement catholique. Et ce rôle-là va pour l'ensemble des établissements, que ce soit des établissements congréganistes, hein, avec une tutelle assurée par une congrégation ou par les autres établissements, pour veiller à l'union, à la communion des établissements. Voilà. Donc c'est un peu les trois fonctions. Et dans nos services diocésains, eh bien, ils sont multiples, effectivement. C'est de l'aide au recrutement, c'est de l'aide pour la gestion, c'est aussi être... la direction diocésaine est aussi le référent par rapport à un certain nombre d'administrations, voilà, par rapport aux mairies, même si l'établissement reste en rapport étroit avec les communes, par rapport au conseil départemental, par rapport à la direction académique et régionale de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole. Voilà, la direction diocésaine assure une représentation auprès d'un grand nombre de ces instances.
Vous avez parlé de recrutement. Bénédicte, vous aviez un message, je pense, à faire passer à nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Dans mon poste, dans ma mission, il y a notamment le recrutement des personnes qui peuvent assurer des suppléances en cas d'absence de maître ou de formation de maîtres qui sont titulaires. Et donc, j'avais un message à passer. Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à aller sur hashtag enseigner dans le privé et à liker cette adresse pour pouvoir diffuser le message et tomber directement sur la page qui permet de s'inscrire ou en tout cas de prendre des renseignements auprès du service de recrutement, car nous avons réellement un besoin, soit pour des suppléances de courte durée qui peuvent aller d'une semaine à plusieurs mois quand on a un congé maladie ou un congé maternité à remplacer. Voilà, ça fait aussi partie de mes fonctions, tout comme celle d'accompagner. Vous parliez des missions d'accompagner aussi les stagiaires dans leur formation et dans leur avancée dans la découverte du métier. Et puis aussi dans l'animation des chefs d'établissement pour que chacun continue d'avancer et d'être toujours tourné vers l'avenir. Voilà.
Alors, Lucie Amiot, tout à l'heure, on a évoqué la date du 22 septembre. En fait, il y a la messe que M. Cassine nous a invités, mais c'est une journée aussi, je crois.
Ah oui, c'est une journée bien remplie, car nous accueillons tous les chefs d'établissement ce jour-là à la visitation pour passer une matinée de rentrée. Et puis, avec Monseigneur, nous recevons tous les nouveaux chefs d'établissement pour le déjeuner, un déjeuner très convivial, bien sûr. Et dans l'après-midi, nous accueillerons également tous les nouveaux entrants dans le diocèse, ainsi que tous les responsables de vie scolaire. Et également, une réunion sera prévue pour les retraités. L'enseignement catholique, c'est une grande famille. Tout le monde y a son rôle à jouer depuis qu'ils entrent dans l'enseignement catholique jusqu'à même la retraite.
Et donc, cette journée se conclura par...
Par une messe à la cathédrale à 18h15 avec Monseigneur, à laquelle vous êtes, bien sûr, invités largement. Elle sera animée par une belle équipe d'animateurs en pastoral et de professeurs de nos écoles.
Et au cours de cette messe, hein, les nouveaux chefs d'établissement
recevront leur lettre d'émission, bien sûr, un geste important. Et nous leur remettrons également, pour s'appuyer, parce qu'ils vont s'appuyer sur cette lettre d'émission pour avancer dans leur mission, ils auront également la parole de Dieu, nous leur mettrons une Bible. On n'avance pas qu'avec une lettre de mission, on avance aussi avec la parole de Dieu, et c'est très important pour nous de se souvenir que c'est le Christ qui nous anime et qui anime tous nos établissements.
Alors, des événements avant notre prochaine émission, hein, des événements le 6 octobre, Monsieur Castille, journée de l'orientation.
Ah, tout à fait, je crois que c'est la 10e ou 11e, on les compte plus maintenant. Ça fait un certain nombre d'années que nous organisons une journée pour les professeurs principaux de nos établissements. Cette journée donc aura lieu le 6 octobre et rassemblera les chefs d'établissement, les professeurs principaux et toutes les personnes, parents et bénévoles et personnels qui participent à un moment donné à la réflexion autour de l'orientation de nos élèves. Voilà, une orientation que nous ne souhaitons pas, bien sûr, subie, que nous souhaitons mûrie, et qui soit bien comme inscrit dans le projet de l'enseignement catholique d'éducation globale, qui ne soit pas seulement un choix de filière, mais aussi la possibilité de réfléchir à un choix de vie. Voilà, c'est pour ça que nous lions assez régulièrement l'orientation et la vocation, et ça sera un des thèmes que nous aborderons le 6 octobre après-midi pour ce rassemblement.
Vous évoquez aussi peut-être l'orientation même au sein du système scolaire, puisque je vois depuis la réforme du lycée, il y a des options, des choses comme ça. Vous abordez ça aussi ?
À de nombreux moments dans la scolarité du jeune, il y a effectivement des possibilités de choix. Hein. Et donc, nous pensons que cette éducation au choix, on ne doit pas attendre la classe de 3e ou la classe de 2e où il y a des choix, mais cette éducation au choix est un des axes éducatifs pour l'enseignement catholique. Voilà. Donc on essaye effectivement d'aider les jeunes qui sont dans cette situation de choix, mais dès le plus jeune âge, d'éduquer au choix nos élèves.
Lucie, un rendez-vous important aussi pour les jeunes de notre diocèse, bientôt ?
Oui, le mois d'octobre est le mois missionnaire. Et pour ce mois-là, nous proposons à tous nos jeunes du diocèse, qu'ils soient en établissement scolaire ou qu'ils soient en aumônerie, une grande rencontre que nous avons appelée un run and bike à la découverte des vocations. Vous comprenez bien que c'est un défi sportif et également une enquête, ainsi qu'une vie spirituelle, puisque les jeunes sont amenés à faire du vélo et à courir en binôme à la recherche de leur vocation. Et sur ce parcours, ils découvriront différents stands avec toutes les vocations à laquelle ils sont invités à vivre et à partager avec leurs amis, leurs camarades.
Vous pouvez redonner la traduction ?
Run and bike, courir
et pédaler,
voilà.
Voilà, donc ça fait mieux en anglais qu'en français.
Bien sûr.
Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres points de la pastorale importantes sur cette année scolaire ?
Alors,
d'autres rendez-vous, hormis les rendez-vous un peu traditionnels ?
Alors ce rendez-vous est un peu exceptionnel parce qu'en fait il rassemble les élèves de la 6e à la terminale. Et donc, ça fait vraiment communion et communauté. Nous avons des rendez-vous aussi traditionnels qui sont taisés aux vacances de la Toussaint. Il y aura aussi un pèlerinage pour les servants d'hôtel. Et nous essayons aussi d'inviter tous les bénévoles, les catéchistes, à un pèlerinage qui aura lieu à la première semaine des vacances d'octobre. Nos bénévoles dans les écoles sont également les bienvenus et invités à ces temps de ressourcement.
Après, nous arriverons autour de Noël et puis voilà, le calendrier traditionnel d'une vie chrétienne.
Alors avant de nous quitter, un agenda dont on reparlera aussi dans notre prochaine émission, puisque au lycée d'Annette, il y aura une grande journée le 30 septembre, hein, Anti-Gaspi, Be Happy, pour lutter contre le gaspillage. Voilà, un festival de présentation avec des activités qui seront menées par les établissements du réseau de l'enseignement agricole. Nous vous en reparlerons, mais une belle journée en perspective ce 30 septembre à Annette.
Oui, Monsieur Cassis, ça me fait penser que l'enseignement catholique s'est engagé aussi dans l'éducation à l'environnement.
Bien sûr.
Le pape avait sorti...
une encyclique, Laudato Si.
Voilà.
Oui, qui inspire beaucoup nos établissements, qui inspire notre démarche de réflexion sur l'engagement. Effectivement, tout est lié, nous dit le pape, tout est lié. Voilà, tout est donné, mais tout est fragile. Donc, il faut aussi prendre soin de notre maison commune. Et c'est bien sûr une valeur, ou c'est plutôt un conducteur pour nos établissements. Voilà, prendre soin de la maison commune et éduquer nos jeunes à en avoir conscience.
Merci à tous et belle année scolaire.
Et merci à Simon, beaucoup. À la technique.
Merci à tous.
Merci à vous. Nous sommes en classe de 6e 3 au Collège Sainte-Marie à Chartres. Et je suis avec Madame Dorizon, qui est professeure d'histoire-géo, professeure principale de cette classe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de nous accueillir. Nous venons aussi vous rencontrer pour que vous nous parliez d'un projet qui a tenu cette classe de 6e toute l'année. Alors, je vous laisse le présenter.
Alors, c'est un projet qu'on a monté avec la classe en partenariat avec le BVS.
Alors, on peut peut-être expliquer ce qu'est le...
Le bureau de vie scolaire, donc avec Madame Gradès, Monsieur Poirier et Monsieur Gradès, sur sensibiliser les enfants sur le harcèlement scolaire. Et dans cette classe, on a des élèves particulièrement aussi sensibles au handicap. Donc on a voulu lier à la fois dénoncer le handicap et en fait la discrimination face au handicap à travers le harcèlement scolaire. Donc le handicap, c'est la malentendance, donc le langage des sourds. Donc montrer comment on accepte l'autre, comment on doit s'accepter. Et le slogan cette année, c'est « Seul, on peut aider, ensemble, on peut sauver ».
Comment en fait vous avez procédé pour... arriver aujourd'hui à ce résultat final?
On a beaucoup répété, on a écrit les scènes, on l'a fait en groupe, on a fait plusieurs scènes. Et après, on a commencé à répéter, on l'a fait un peu au dernier moment, enfin je trouve.
Alors, quand tu dis « on a écrit », donc vous avez commencé par faire un travail d'abord de réflexion.
Vas-y. On a écrit en fait toutes les scènes, les dialogues. Et tout ça pour monter en scène le projet.
Alors quand on est une classe avec autant de,
d'élèves, comment on se met d'accord sur justement techniquement cette écriture, l'écriture de l'histoire?
Au début, on a décidé où se passeraient certaines scènes, quel type de scène on ferait. Et après, on a réparti en groupes pour que chaque groupe fasse une scène. Et du coup, chaque groupe discutait entre eux et on montait la scène.
Où se passe cette histoire ?
Cette histoire, elle se passe dans le collège pour montrer que le handicap n'est pas une... Enfin, il faut pas se moquer, quoi. Il faut s'imaginer si on était à la place des autres. Et il faut
Alors,
pas...
ça commence comment ? Ça se passe... Maintenant, vous allez nous raconter l'histoire. Ça se passe où ? Avec qui ? Qui sont les personnages ?
Ça se passe à l'entrée du collège, la première scène. Et du coup, il y a le harcelé qui arrive avec ses frères et sœurs. Il parle en langue des signes avec ses frères et sœurs. Et du coup, après, il met sa blouse. Il va rentrer dans le collège, sauf que là, il y a les harceleurs qui l'interpellent pour se moquer de lui. Et après, il rentre tout triste dans le collège.
Et ensuite ?
Donc ensuite, il va aller un petit peu partout dans le collège. Et donc à chaque fois, par exemple, qu'il voudra jouer, où il demandera au harceleur, parce qu'il est tout seul, et au témoin passif aussi. Et à chaque fois, on le repoussera, ou sinon on l'acceptera, mais pour le harceler.
Après, il y a la troisième scène, c'est il y a les élèves qui sont dans le couloir, mais il y a les harceleurs qui continuent de l'embêter en prenant ses affaires et en les jetant par terre, en lui disant ramasse le chien, enfin des trucs un peu insultants.
Ensuite, ils arrivent dans la classe pour le cours d'histoire géo, et du coup, en fait, le harcelé découvre qu'il est à côté d'un des harceleurs, et en fait, il va tout faire pour se moquer de lui, pour qu'il soit embêté. Et du coup...
Après, c'est la dernière scène. Donc du coup, il y a les témoins actifs qui vont intervenir vers la prof principale et qui vont justement dire qu'il y a du coup un harcelé qui se fait, qui est triste, qui est tout seul. Et la prof principale va intervenir, les harceleurs vont avouer leur faute et ils vont tous devenir amis et après c'est terminé.
Alors, d'avoir travaillé sur ce thème du harcèlement, cette question du harcèlement, est-ce que ça a changé l'ambiance de votre classe ? Est-ce que dans votre classe, finalement, le fait d'y réfléchir, d'en parler, ça a permis de mieux vivre ensemble ?
On a pris compte de ce que ça faisait aux personnes harcelées et on fait plus attention maintenant.
Je pense qu'il y a des personnes du coup qui ont arrêté d'harceler.
En fait, les harceleurs, ils font rire les autres, mais du coup, le harcelé, ils s'en mêlent.
Déjà, la classe, elle s'est rendue compte que le harcèlement, c'était pas bien. Et du coup, maintenant, on fait plus attention dans la cour s'il y a des personnes qui sont harcelées. Et si on voit qu'il y a des personnes qui sont harcelées, on va venir aider et on va venir parler aux autres.
Moi, en fait, je trouve que l'ambiance de la classe au début d'année, on se connaissait pas trop, on avait pas beaucoup d'amis, mais les mois qui ont suivi ont fait qu'on a compris et qu'on essaye d'aider les gens. Donc je trouve que l'ambiance de la classe en fin d'année, elle est super et on a tous compris que le harcèlement, c'était pas bien, en fait.
Le projet harcèlement, ça a changé un peu tout le monde.
Mais surtout que je pense qu'il y en a qui savaient pas que c'est ce qu'on a vu, c'était pas du ils savaient pas que c'était du harcèlement et ils ont compris.
Vous avez réalisé un film. Ce film, il est à destination de qui ?
En fait, il est pour un peu tout le monde, pour ceux qui ont des handicaps, pour dire qu'il faut pas se replier sur nous-mêmes, il faut avancer et pas penser aux autres, en fait.
Mais à qui vous allez le diffuser ? Est-ce que par exemple nos auditeurs pourront aller voir ce film ? Est-ce que vous allez le proposer et le diffuser à tout le collège ?
Je crois qu'on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Et sur Internet, on a fait une vidéo après parce que souvent maintenant, les gens, ils lisent plus, par exemple, imaginons le journal, les quotidiens et tout. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui lisent ça pour prendre les nouvelles dessus. Ils regardent plus des vidéos, les réseaux sociaux et tout.
On va le transmettre aussi à notre famille, ceux qui sont à l'entour, aux professeurs, à la directrice bien sûr aussi. À tout le personnel du collège.
Merci beaucoup.